Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mes chers frères, depuis plusieurs dimanches, l'enseignement de l'Église souligne la grandeur et la gloire du Nouveau Testament par rapport à l'Ancien. Nous venons de l'entendre de la part de l'apôtre saint Paul, car si le ministère de la condamnation est entouré de gloire, le ministère qui justifie, de justification, en aura bien davantage. Moïse, en effet, était redescendu du Sinaï, resplendissant des rayons même de la divinité. Mais la gloire des apôtres, comme le souligne Don Guéranger, est celle de celui qu'ils annoncent. Cette gloire de notre Seigneur, par conséquent, notre Seigneur Jésus-Christ lui-même nous la communique, et c'est de lui, tête du corps mystique, l'Église, que s'échappe désormais le rayonnement divin par les canaux de la Sainte Église. Devant la diversité des grâces qui nous sont ainsi accordées, Don Guéranger s'exclame dans son commentaire sur ce dimanche en reprenant les paroles de notre Seigneur à la Samaritaine. Oh, si nous connaissions le don de Dieu, si nous comprenions la dignité suréminente réservée sous la loi d'amour à tout homme de bonne volonté. Peut-être que nos lâchetés céderaient enfin, peut-être que nos âmes s'éprendraient-elles de la noble ambition qui fait les saints. Dans cette noble ambition, mes bien chers frères, il nous faut donc considérer la promulgation du grand commandement qui renferme toute la loi et les prophètes. Il nous faut aimer Dieu et son prochain, et la parabole du bon samaritain en est la conclusion pratique. C'est la foi qui opère par la charité. C'est pratiquer à l'égard de son prochain la charité de la vérité. Et c'est la raison pour laquelle je vous parlerai ce matin de l'esprit du combat qu'il est nécessaire de mener afin de manifester cette charité de la vérité. Je le fais en me conformant aux écrits des auteurs antilibéraux qui ont parlé des causes de la diminution des vérités de la foi chez nos contemporains, du libéralisme qui est précisément un péché contre la vérité, une faute contraire à la charité. Tout d'abord, un rappel est indispensable. Beaucoup ne le comprennent pas, mais ce combat n'est autre que cette lutte dont nous parle l'apôtre saint Paul contre les principautés et les puissances infernales, contre les gouverneurs de ce monde de ténèbres, contre les esprits de malice répandus dans les airs. Et en d'autres termes, contre les ennemis invisibles et visibles de nos âmes. C'est la raison pour laquelle ceux qui se sont mis volontairement au service de ces puissances infernales, ou ceux qui font le jeu de l'adversaire du Christ et de son Église, doivent être désignés nommément. Cela correspond à l'injonction précise de Léon XIII dans son encyclique Humanum Genus, qui stipule d'arracher le masque aux ennemis de l'Église. Ainsi, que ceux qui s'offusquent réfléchissent bien à cette explication. Et cette forme de combat sera d'autant plus facilement admise lorsque l'on retient également ce que nous en dit Don Sarda y Salvani, dans l'introduction de son ouvrage « Le libéralisme est un péché », il précise que ce ne sont pas des questions qui ne soulèvent aucun désaccord dans l'opinion publique, et qui n'ont rien d'hostile aux droits sacrés de la vérité qui doivent être débattus, mais au contraire que nous devons mener une lutte sans trêve à l'erreur et aux fauteurs d'erreur. La raison nous en est donnée par saint Thomas d'Aquin. Le docteur Angélique nous dit en effet, dans son commentaire de la première épître de saint Paul à Timothée, qu'il faut, écoutez bien, d'abord empêcher ceux qui enseignent l'erreur, ensuite empêcher le peuple de prêter attention à ceux qui enseignent l'erreur. Ce que nous avons donc trop tendance à oublier, mes bien chers frères, c'est que par le baptême et la confirmation, nous sommes membres et soldats de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc Satan nous dit que nous sommes armés, chevaliers de la milice de notre Seigneur et de son Église. Et il souligne fort justement que si le catholicisme est la divine vérité, comme il l'est positivement, alors vérité est douloureuse vérité, ont pour ennemis les ennemis du catholicisme. Alors comprenez bien ici que les ennemis de notre Seigneur et de son Église, les ennemis visibles et invisibles de nos âmes, passent, eux, tout leur temps à attaquer la vérité, qu'ils n'ont cesse de lutter contre la vérité et de déformer la vérité. C'est la raison pour laquelle les attaques et les défenses du fidèle catholique doivent être réelles. C'est très sérieusement qu'il faut se jeter en ces entreprises, dit Don Sarda, très sérieusement qu'il faut les mener à bonne fin. Réelles et véritables doivent être par conséquent les armes dont elle fait usage, réelles et véritables les coûts d'estoc et de taille qui se distribuent, réelles et véritables les coups et les blessures faites ou reçues. Vous aurez remarqué que la fausse majorité traditionnelle ne mène absolument pas cette forme de combat. Plongée dans les erreurs ecclésiologiques et tenue, comme je vous l'ai fait remarquer dimanche dernier, il lui est impossible de mener le bon combat tel que nous en parle d'abord saint Paul dans sa seconde épître à Timothée, selon la saine doctrine, et puis selon ce que nous dit Don Sarda dans « Le libéralisme est un péché ». Bien que s'en défendant, la fausse majorité traditionnelle dans ses autorités est libérale. Les faits le prouvent, et c'est en lisant les auteurs antilibéraux, précisément, qu'apparaissent ces réalités. Nous avons, mes chers frères, dans un passage des écrits du père Aubry, qui stigmatise bien cette attitude, non seulement chez nos contemporains, en général, mais aussi chez tous les ralliés et rallieurs aux antichrists actuels. Retenez bien ce passage. Voici ce qu'il dit à propos des libéraux. L'équilibre que donne le libéralisme, soit à l'esprit humain, soit à l'ordre civil, est un équilibre instable. Il les place sur un plan incliné où ils glisseront peu à peu. Cette pente est fatale. On ne s'y arrête que si on la quitte résolument pour rentrer dans l'esprit catholique. Si les concessions faites à l'erreur par le libéralisme, continue-t-il, n'étaient qu'une faute de tactique, une maladresse, une imprudence échappée à l'apologiste, nous devrions en conscience les accepter pour l'Église, car elles ne seraient pas une injustice. Mais elles sont une injustice, et nous n'avons pas le droit de laisser entamer notre foi. Systématiquement, elles écartent ce qui choque les esprits modernes, elles tamisent la vérité catholique. Voilà donc ce qui est loisible de constater aujourd'hui, et c'est dans les raisons de la diminution de la vérité que nous retrouvons également d'autres attitudes libérales. Voici ce que dit encore le père Aubry à ce propos. Et pourquoi cette diminution de la vérité? C'est que dans la chair comme dans la littérature, la langue nationale s'appauvrit d'idées dogmatiques. Pour parler des dogmes catholiques, beaucoup d'esprits, au lieu d'employer l'expression théologique, éprouvent le besoin d'en atténuer la crudité par des circonvolutions qui les voilent et les déguisent. On ne nomme plus Jésus-Christ. On parle peu de l'enfer. J'ajouterai maintenant, on ne vous en parle plus. On s'exprime à mot couvert sur certains dogmes, par exemple sur la grâce et le monde surnaturel dont la réalité n'apparaît plus clairement. Rappelez-vous ce que je vous ai déjà signalé de Joseph Ratzinger. Le ciel n'est plus un lieu, c'est seulement un état. Et voici, mes bien chers frères, ce qui concerne directement les comparaisons erronées établies par les membres de la fraternité Saint-Pédis pour tenter d'expliquer la situation de l'Église. On voit des métaphores, dit le père Aubry, des figures, des manières de parler dans les grandes réalités de la foi. Voilà ce qui fixe et consacre les idées fausses dans le peuple, dit-il, ce qui obscurcit l'intelligence et ce qu'il faut écarter à tout prix. Et toujours en ce qui concerne le libéralisme, mais plus précisément sur le fait de ne plus supporter la saine doctrine, le père Aubry a ces mots aux esprits timides, nuageux et affadis par le libéralisme et le rationalisme, les idées vigoureuses paraissent des exagérations choquantes. Voilà donc, mes bien chers frères, en quelques citations et explications, ce que nous devons retenir sur le combat et la forme du combat que doivent mener les véritables fidèles catholiques. Dans son ouvrage « Le sens chrétien de l'histoire », Don Guéranger nous parle aussi de la forme de ce combat. Il nous dit que le chrétien juge les faits, les hommes, les institutions, au point de vue de l'Église. Il n'est pas libre de juger autrement. Et c'est là ce qui fait sa force. Mener ainsi le combat, c'est donc pratiquer à l'égard de son prochain la charité de la vérité. Car mes bien chers frères, si j'ouvre maintenant l'histoire de l'Église, je trouve à toutes ses pages cette vérité écrite maintes fois en lettres de sang. Car le fidèle catholique le paye de sa vie pour la vie éternelle. Donc Guéranger nous dit ce matin que Jésus-Christ a tamisé avec une énergie sans égale la corruption judaïque en face de toutes les préventions nationales et religieuses de son temps. Il éleva l'étendard de sa doctrine et il le paya de sa vie. Le disciple n'est pas au-dessus du maître. Et puis si nous regardons aussi le tout début de l'Église, la naissance de l'Église, le jour de la Pentecôte, en sortant du Cénacle, les apôtres ne se laissèrent pas arrêter à de vains scrupules lorsqu'il s'agit de reprocher en face aux princes et aux magistrats de Jérusalem l'assassinat juridique de notre Seigneur et pour avoir osé, en ce moment, toucher une question si brûlante, ils furent frappés de verge d'abord et plus tard mis à mort. Dont certains nous ayons parlé de la façon de traiter ces questions et des conséquences qui en résultent, je fais donc comprendre que cette forme d'action, combattre non seulement l'erreur, l'hérésie, mais également citer celui qui est dans l'erreur, dénoncer l'apostasie et citer l'apostat, c'est désigner, vous l'aurez compris, les ennemis du Christ et de son Église. Voilà donc, mes bien chers frères, un enseignement pratique à partir de la parabole du bon samaritain, car tous ceux qui se trouvent prisonniers de ce mutisme spirituel, de tous ceux qui sont sourds à la vérité, tous ceux qui, dans la fausse majorité traditionnelle, donnent de plus en plus part à leurs opinions personnelles par rapport à la doctrine catholique, manquent à la charité de la vérité. Je vous en donne un exemple concret. En n'affirmant pas l'invalidité du nouveau rite de la messe et surtout du nouveau rite des sacres épiscopaux, il laisse nos contemporains, nos proches parfois, il laisse le prochain sur le chemin à demi-mort, à demi-vivant. Car sans la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, puisque les canaux de la grâce sont coupés ainsi, il est pratiquement impossible de se sauver. Voilà ce manque de charité évident avec cette conséquence directe sur le salut des âmes. Alors, la leçon est claire. Notre Seigneur nous la donne lui-même. À la question posée, lequel de ces trois vous paraît avoir été le prochain de celui qui est tombé entre la main des voleurs? Le docteur de la loi répond, celui qui a exercé la miséricorde envers lui. Allez donc, lui dit Jésus, et faites de même. Eh bien, nous aussi, mes bien chers frères, faisons de même et soyons généreux, ne comptons pas. Nos efforts seront récompensés. Don Guéranger, que je cite encore, nous dit qu'il y a une grâce attachée à la confession pleine et entière de la foi. Et que cette confession, dit l'apôtre saint Paul, est le salut de ceux qui la font, et l'expérience démontre qu'elle est aussi le salut de ceux qui l'entendent, et il termine en disant, soyons catholiques et rien d'autre que catholiques. Alors, mes bien chers frères, qu'importe la souffrance passagère, les difficultés actuelles, si nous confessons cette foi, parce que nous faisons ici, ce que nous faisons ici-bas, c'est pour gagner notre ciel, c'est pour obtenir le bonheur éternel. Menons alors ce bon combat que nous sommes tenus de livrer à l'erreur et aux fauteurs d'erreur, parce que nous sommes chevaliers par le saint baptême et la confirmation, chevaliers d'une si glorieuse milice, comme nous l'a dit si bien Don Santa. L'oraison collecte de la messe, bien chers frères, que nous venons de dire, nous signale que la grâce nous est indispensable pour servir notre Seigneur comme il le convient. Eh bien, puisqu'il y a une grâce toute spéciale, une grâce attachée à la confession pleine et entière de la foi, demandons à notre Seigneur Jésus-Christ qu'il nous accorde de poursuivre sans trêve cette confession de la foi opérant par la charité de la vérité. Demandons cette grâce, bien sûr, par la médiation de l'auguste Reine des cieux, Virgo Fidelis, ainsi soit-il. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.